Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes en mars 2017. La crise du lait s'est installée en Europe depuis plusieurs années, mais elle a pris un tour plus grave le 1er avril 2015 avec la fin des quotas laitiers, l'arrêt des importations chinoises et l'embargo russe décrété mi-2014. Ce croisement de facteurs a entraîné une surproduction de lait non compensée par une augmentation de la demande ou du prix évidemment. Au contraire, après avoir atteint 365 euros la tonne en 2014, les cours du lait sont tombés à 305 euros en 2015, avant de glisser autour de 275 euros au mois d'août 2016. Produire une tonne de lait coûte donc 350 euros environ. La perte sèche pour l'agriculteur sur chaque tonne n'a fait qu'augmenter. En plus, lorsqu'un éleveur, acculé par cette situation inextricable, décide de tout arrêter, ce sont aussi 6 à 7 emplois générés par son activité qui disparaissent dans la foulée du chauffeur qui vient collecter le lait au vétérinaire. Les géants de l'industrie laitière sont en grande partie responsables de la situation. Ils achètent le moins cher possible pour gagner des parts de marché, rester compétitifs et étendre leur emprise. C'est du moins ce qu'analyse un article du Monde à cette époque. Lactalis est la cible principale des producteurs de lait qui lui reprochent son manque de transparence et des relations exécrables avec les éleveurs. Depuis cette date, depuis 2017, il faut dire que le marché va un peu mieux. L'Europe a écoulé les surplus de lait en poudre qu'elle avait stockés et les cours du lait remontent doucement. Pour leur retour en 2017, avec deux histoires d'éleveurs en danger ou en grande difficulté, deux histoires des temps modernes, l'une est liée à la surproduction et l'autre à la technologie. Elles se passent toutes les deux dans la Manche, pas très loin l'une de l'autre, et elles sont signées et recueillies par Alice Milo.
Voilà, bah la salle de traite est juste en face. Pour l'instant, elle n'est pas encore retransformée ni démontée. Peut-être parce que dans ma tête, je ne suis pas prêt à la démonter encore. J'ai peut-être pas la force de la démonter encore pour l'instant. Je me rappelle de l'inauguration quand mes parents l'ont inaugurée, et puis voilà. Dans peu de temps, c'est moi qui vais la démonter. J'ai bientôt 40 ans. J'ai trait pendant 30 ans ici. À 10 ans, je venais traire à la fin de l'école avec mes parents. Ça me plaisait d'aller aux animaux ou aller dans les champs avec mon père. Là, je vais vendre les 4-5 vaches qui me restent au printemps 2017. Là. Quand je vais vendre ma dernière vache sur l'exploitation, je pense que là, ça sera... Voilà, ça sera vraiment la dernière ligne du livre, on pourrait dire.
Vous vous souvenez le dernier jour où vous avez trait vos vaches ?
Oui, je m'en rappelle, c'était un samedi soir. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai rien dit à personne, j'étais un peu bête. Voilà, dans moi, je me suis dit, c'est la dernière fois que j'éteins ma machine à traire et je la rallumerai pas demain. Et voilà, c'est psychologiquement, c'est dur. Et le lendemain, quand mon gamin était chercher du lait, il me dit, papa, il n'y a pas de lait dans le tank. Mais j'ai dit, non, mon chéri, il n'y en aura plus. Voilà. C'est comme ça. Pour lui, c'était... Papa, il traira toujours, et voilà. On se sent toujours coupable quand on réussit pas dans sa vie, en fait. C'est pas comme un ouvrier qui est dans une usine, que l'usine ferme ses portes et qui se trouve licencié. Là, c'est mon entreprise personnelle, et voilà. Je peux m'en vouloir qu'à moi, ou peut-être à la conjoncture du lait à l'heure actuelle qui fait que j'ai été obligé d'arrêter, mais voilà. Indirectement, c'est un échec personnel. Ça a été dur pour ma femme, les premières courses, à acheter des briques de lait. Même pour les enfants, au début, on a été obligé d'en changer 2-3 fois parce qu'ils n'aimaient pas le goût. Maintenant, ils ne boivent quasiment plus de lait. Moi, j'en bois plus non plus. Je ne peux plus en produire, j'en prends encore moins le plaisir.
Je viens de Tracy-sur-Mer, le village juste à côté, où mes parents étaient éleveurs laitiers aussi. J'ai toujours vu mes parents bosser. L'élevage laitier, ben, c'est toujours... Il faut être là matin et soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'était pour moi une grosse contrainte. Et combien de fois on rentrait, que dimanche on allait se promener, et il fallait rentrer parce qu'il fallait traire les vaches. Et il y a des fois, on aurait préféré rester à se promener avec mes parents, et voilà, ou voir mon père. Je sais que mon père, quand on était en repas de famille, en plus, nous, on aime beaucoup rester à table, et je l'entendais des fois, il faisait un bisou à maman, et puis il disait, bah, allez, comme d'habitude, c'est toujours le même con qui s'en va bosser, et puis... Les peu de fois où on allait faire un petit tour à pied, mon père partait traire, et donc... Moi, je voulais une vie à la ville, je voulais être une fille de la ville, quoi, et... je disais que il était hors de question que je me marie avec un agriculteur. Ma mère m'a dit, j'ai dit la même chose que toi, regarde où j'en suis. Mais après, voilà, j'ai épousé un homme et pas un métier. Hein. On tombe amoureux de quelqu'un. Hein. On s'est connus, on avait allé les premières fois 16 ans, 17 ans à peu près, quand il travaillait chez l'entrepreneur agricole. Il travaillait avec mon frère, en fait. Et en gros, quand moi, je rentrais de boîte de nuit, bah, lui venait prendre mon frère au passage et allait bosser. En fait, on se croisait dans le bout du chemin chez mes parents. Voilà, et donc un soir, on s'est croisés en boîte de nuit. Je m'ennuyais, il s'ennuyait. Puis on a discuté, puis voilà. Après, voilà, il savait que j'étais pas branchée pour travailler à la ferme. Mais s'il avait besoin de moi, il savait qu'il pouvait compter sur moi. Je lui ai dit, bah, prends-moi à traire, on sait jamais, jour où t'as besoin. Enfin, voilà, et j'ai trait quelques fois. Après, même si je détestais ça, hein, faut quand même le dire, j'ai toujours bien fait le travail. J'aimais pas ça, mais moi, disons que j'ai peur. Le problème, c'est que j'arrive pas à aller au-delà de ma peur avec les animaux. Mais j'ai peur d'une vache, mais j'ai peur d'une poule, donc... C'est forcément, ça fait vite des barrières, quoi. Mais voilà, après, le quotidien, oui, c'était plus moi à la maison, les chambres d'hôtes et la table d'hôtes, et puis bah, les enfants qui étaient tout petits.
Et vous, Christophe, pendant des années, vous n'avez pas pris de vacances ?
Oui, pendant quelques années, on a été une fois tous les 3-4 ans, on allait 8 jours au sport d'hiver, parce que bon, moi, c'est mon rêve, entre guillemets, d'aller skier, même si on n'a pas pu y aller souvent. Et puis, avant d'arrêter de traire, ouais, on a été 5 ans sans que je bouge de l'exploitation du tout, en fait. Partir de l'exploitation, c'est payer quelqu'un pour prendre notre place. Et puis, après, il y a le côté... Bah, des voisins, de la famille, des gens à qui on doit des sous, qui disent, ben voilà, il nous doit des sous, puis il se barre 5 jours en vacances, et ça, on peut pas le supporter. C'est déjà qu'on a du mal psychologiquement, et si en plus on se prend à l'arrière des oreilles quelqu'un qui nous dit, ben tiens, ça a parlé de toi, parce que tu, voilà, alors tu peux pas te permettre de faire ça, en fait. Ça a vraiment commencé à mal aller dans les années 2009, à la première grosse crise du lait, que ça a commencé vraiment à se dégrader énormément. Sur une année laitière, le coût de production d'un litre de lait, on va dire, coûte 35 centimes, ça dépend les années, le prix des aliments et du carburant et tout ça. Et on a un prix du litre de lait qui est payé entre 24 et 25 centimes. À chaque fois qu'on produit un litre de lait, il nous manque 10 centimes dessus. Alors sur une exploitation comme la mienne, en pleine production, on pouvait produire à peu près 30 000 litres, 32 000 litres de lait par mois. Alors si vous multipliez par les 10 centimes, vous faites vite le calcul. Alors ça fait 3 000 euros de moins tous les mois sur la paye de lait. Ces 3 000 euros-là, ils auraient pu permettre de payer le marchand de machines à traire, ils auraient pu permettre de payer le vétérinaire, de payer les impôts, de payer tout ça. C'est des dettes qui s'accumulent, c'est des retards de paiement chez les fournisseurs, c'est des retards un peu partout, et voilà, on travaille à perte tout le temps.
Ça s'est traduit par Christophe qui ne se versait pas son salaire. Depuis qu'il avait démarré, c'était que 1 000 euros, donc c'est même pas le salaire de base, hein. C'était moins, mais on arrivait à faire avec, et puis on se débrouillait comme ça. Mais je lui ai dit, écoute, je vais aller voir les boîtes d'intérim, je vais m'inscrire, et puis l'hiver, ben, je vais essayer de bosser à l'extérieur, même si je bosse à l'usine, si... voilà, je m'en fous de ce que je vais faire. Du moment que voilà, on arrive à ramener l'argent dans le foyer, à la limite, bah, tu ne te verses pas de salaire pendant quelques temps. Et puis au moins, eh ben, on voit venir comme ça, quoi. Donc, voilà. J'ai fait pas mal de choses. J'ai bossé à Frial, une usine agroalimentaire sur Bayeux. À mettre les asperges à tête en haut, une en bas, une en haut. Et puis à la fin, à un moment, on a un voisin là qui était le directeur à l'époque du bricomarché qui m'a dit bah, « j'ai un poste de caissière qui se trouve libéré là, si tu veux, je te passe quoi ». Donc bah, j'ai dit oui. Au moins, on a cette garantie de dire, voilà, on a quelque chose tous les mois pour manger, pour pouvoir pallier au quotidien, quoi. Donc, à partir de 2014, les huissiers ont commencé à prélever sur mon compte des factures qu'ils ne pouvaient pas prélever sur le compte professionnel ou directement sur la paye de lait. Donc, ils prélevaient sur mon compte qui était au nom de monsieur ou madame. Même si c'était le compte privé, ils se sont servis. La première fois, c'était un matin. Bah, j'avais justement, on avait besoin de payer une grosse facture à la ferme et j'avais un peu de sous sur mon compte et je dis, bah, écoute, je vais regarder ce qu'il y a et puis on va payer au moins une partie de la facture. Et en fait, je savais plus ou moins combien j'avais sur mon compte. Et quand j'ai regardé sur Internet, je me suis dit, c'est pas vrai. Je me suis déconnectée, je me suis reconnectée, je me suis plantée. Et le hasard a fait que je tombais sur le compte de quelqu'un d'autre. Et là, une grosse bouffée de chaleur m'a montée. J'ai vu le zéro. Le compte était à moins 200 euros à peu près. Et là, pas bien du tout. Et puis je suis montée dans la chambre et je suis partie à rire, je ne sais pas pourquoi. À rire, les enfants ont dit, mais elle est dingue. Alors, les enfants m'ont rejoint sur le lit, m'ont regardé, ils rigolaient aussi. Et puis, au bout d'un moment, ils ont vu que je rigolais, mais je levais pas tête de l'oreille, donc ils ont été chercher leur père. Et puis, quand les gamins étaient sortis, Christophe a vu que je pleurais aussi, j'avais la ripleur. En fait, j'arrivais plus du tout à gérer mes émotions, quoi. J'arrivais plus à faire le tri entre qu'est-ce qui nous arrive, c'est une blague, c'est une erreur, c'est quoi. Et j'ai dit à Christophe, mais as-tu vu, enfin, ils m'ont vidé le compte en entier, quoi. Tout a été sucré. Enfin, on n'a plus rien du tout, quoi. Tout ce que on fait comme effort, pour pas dépenser, de se priver de tout, purée, tout est parti, là. Ça y est.
Je me sentais un peu gêné parce que cette situation-là, elle est pas de la faute de Ludivine, elle est de la mienne. Alors, obligatoirement, je m'en voulais qu'on arrive dans cette situation-là.
Quand vous partez, vous devez faire vos courses du mois et qu'en début de mois, vous avez 40 euros dans le porte-monnaie et vous êtes en train de faire les courses. Et là, vous dites au gamin, bah, va me chercher ça et tu me dis le prix. Et hop, dans ma tête, je comptais. Hop, c'est bon, on arrête. Il y a des gens que j'ai pu croiser pendant que je faisais mes courses, où en fait ils me parlaient, et dans moi je me disais, je suis à 32,50, je suis à 32,50, parce que je voulais pas recompter tout le reste, quoi. J'ai vu être à 20 centimes, et 20 centimes, fouiller mon sac à main, la voiture, j'avais pas les 20 centimes pour payer les courses. Ben après, c'est pas facile d'aller voir les parents ou frère ou la sœur dire bah tu peux me prêter tant. Et donc, ben, au bout d'un moment, la banque a dit, ben, plus de carte bleue. Quand vous n'avez plus moyen de payer quoi que ce soit, qu'il faut que toutes les semaines vous alliez demander l'autorisation d'avoir 100 euros à la banque, c'est hyper humiliant. Bah, excusez, mais on va appeler au siège parce qu'il faut qu'on demande l'autorisation. Et là, ils appellent le chef. Alors, vous en avez qui disent, bah, venez, on va dans le petit bureau. Puis, il y en a d'autres. Ouais, j'appelle pour Madame Intel. Ouais, bah oui, le compte est bloqué, donc on a le droit de lui donner 100 euros. Bah, voilà, il y en a qui ont vachement de tact à la banque et puis il y en a qui en ont beaucoup moins. Et puis bah forcément, il n'y a pas de bol, c'est que des fois, quand ils n'ont pas de tact, c'est là où il y a le plus de monde dans les files. Et puis bah, je travaille dans un commerce, donc c'est là où il y a des clients. Et puis, ouais, c'est humiliant. On bosse comme des dingues, c'est clair, et il n'y a rien au bout, donc c'était toujours en temps sous tension ici, enfin limite prêt à exploser quoi. Voilà, on se parlait quasiment plus, enfin juste le strict minimum. On était agressifs l'un envers l'autre, donc toujours agressifs avec les enfants. Donc les enfants étaient agressifs. Puis il y avait du monde qui arrivait où on allait chez quelqu'un, on était tout sourire, tout va bien. Et puis hop, on remonte en voiture. La tension était palpable. Voilà, on était vraiment à fleur de peau quoi. C'était compliqué. Une fois, je suis rentrée, Christophe était dans le fauteuil en train de pleurer, et puis je lui dis hein, mais va falloir que tu trouves une solution. Et puis il me dit le coup de fusil, c'est peut-être ça la solution. Et là, je dis non mais enfin t'es dingue quoi. Enfin ça va pas. Enfin on est là, il y a moi, il y a les gamins, il y a. Faut pas que tu penses à ça quoi. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a fait flipper longtemps. Encore des fois, il me disait, je rentre dans 5 minutes, et puis je ne voyais pas rentrer. J'ai vu des fois aller à la Stabu, à regarder si je le voyais s'activer au boulot, quoi, parce que je n'étais pas rassurée.
Voilà, on y pense tout le temps, on se dit, si je me mettais une corde au cou ou une balle, j'aurais plus de soucis. Mais après, d'un autre côté, quand on réfléchit bien, on se dit que prendre cette solution-là, c'est un peu un système de lâcheté envers ceux qui restent. Dans l'été 2015, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je trouve une solution pour arrêter de traire. Je me suis vraiment décidé en septembre-octobre 2015.
Dans les premiers week-ends où il a arrêté de traire, on est allé se balader, on revenait par la côte et puis... Je dis, oh, t'aurais bien poussé jusqu'à Port. Il me dit, vous voulez manger un petit croque-monsieur à Port hein? Les gamins nous ont regardé. Il est quelle heure? Il est 7h, l'heure à laquelle on rentre habituellement pour les vaches. Et puis on a fini, on a mangé à Port en Bessin. Et les gamins, ils se sont dit, c'est la nouvelle vie et c'est bien aussi, quoi.
Et comment vous voyez l'avenir?
Je pense que je vais arrêter les animaux complètement déjà, dans à peu près un an, et puis trouver peut-être un travail à mi-temps à côté de l'exploitation. Quand j'aurai plus d'animaux du tout, là je pense que ça va être plus dur. Voilà, j'aime les vaches laitières à la base, et après j'aime ma nouvelle vie aussi. Mes parents m'ont dit un jour, une ferme ça vaut pas une vie, voilà, faut pas sacrifier sa vie pour essayer de sauver une ferme ou de perdre la vie à cause d'une ferme, voilà, c'est à un moment donné faut faire les choix et faire les bons.
France Culture, les pieds sur terre.
Après m'être installé en 1970, j'ai pris la ferme de mes grands-parents, d'une exploitation de vaches laitières, une ferme qui a été traversée en 82 par les couloirs de ligne 400 000 volts, et j'étais une ferme, pas modèle, mais presque. J'étais un bon agriculteur. Alors, c'est quand que on a décidé de faire une mise aux normes, mettre les bâtiments d'exploitation aux normes européennes. C'est lorsqu'après que je me suis rapproché de l'antenne THT que les problèmes ont apparu de toutes sortes. Voilà, voici les fameuses antennes-là que vous pouvez voir là. Ces antennes-là sont là depuis 1982. Avant les travaux, j'étais à 120 mètres. Et maintenant, j'en suis plus qu'à 60 mètres.
Ce sont des pylônes?
Des pylônes en fer, disons. Ça fait 60 mètres de haut. La première année, j'ai perdu 52 bêtes. Que normalement, j'en perdais pas une par an. Donc les vaches sont diminuées physiquement. Ce sont des squelettes, les oreilles pendantes et des œdèmes que j'avais jamais vus de ma vie, et les vétérinaires non plus. Ils n'ont jamais su me dire pour quelle raison que ces œdèmes-là étaient apparus. mais elle dépérissait et puis elle crevait à la fin. Hein. C'est comme ça que ça finissait, à part les morts cardiaques. J'en ai vu deux le dimanche matin, je m'en rappelle mais toujours. J'arrivais dans le hangar pour surveiller la traite et tout. Et il y en a deux qui m'ont tombé sous les yeux. J'ai perdu jusqu'à 200 000 litres de lait par année parce que on les trait, mais elles produisent du mauvais lait que je ne peux pas vendre. Ou alors, si on le vend, il est déprécié, donc il ne nous paye presque rien. Quand vous voyez mettre des 1000 litres de lait comme ça à la poubelle, je peux dire que ça vous fait mal. C'est pour ça que j'en ai quand même gros sur le cœur. On n'a jamais trouvé une solution. Même les nutritionnistes et tout n'ont jamais trouvé une solution. Bon, des années d'expérience, on en rencontre de toutes les sortes, mais à ce niveau-là, moi j'avais jamais vu ça. Vous voyez le hangar là, qui est implanté à 60 mètres de l'antenne, où les 400 000 volts transitent dans les fils.
Donc là, c'est le nouveau hangar où vous mettez vos vaches?
Voilà, là, c'est le nouveau hangar, donc il n'y a que ce hangar-là où les bêtes ont des problèmes. Suite à ce permis de construire là que j'avais demandé, j'avais demandé à RTE de venir sur l'exploitation pour voir si ça ne posait pas de problème.
C'est quoi RTE ?
RTE, c'est une filière d'EDF qui transporte l'énergie qui alimente tous les transformateurs. RTE est venu avec des appareils de mesure qui me dépassent un peu, mais bon, comment je dirais, ces personnes-là ont toujours une idée de dire c'est parce qu'on est mauvais agriculteurs, c'est pour ça que les problèmes surgissent dans les exploitations. Alors, c'est sur ce point-là que je leur ai quand même dit à plusieurs fois, contactez les voisins et on verra ce qu'ils vous diront si je suis un mauvais agriculteur. Bon, mes collègues sont comme moi, même eux, ils sont dépassés. On doit être 7 dans la Manche, avoir le même problème.
On rentre dans le hangar ?
Voilà, le hangar, là, les vaches sont alimentées et se couchent sur des tapis, des moquettes, on appelle ça, des moquettes avec un tapis pour être confortable avec de la paille. Donc, comme je dis toujours, c'est un 4 étoiles, ça. Les vaches ne parlent pas, c'est pour ça qu'il faut qu'on les comprenne. Hein ? J'ai quand même fait venir des géologues. Ils m'ont dit quand même que les problèmes qui s'avéraient venaient du sol. Le courant transite de l'antenne dans l'exploitation par les sous-sols. Et comme le sous-sol est ferreux, c'est conducteur de courant. Et c'est ce courant-là que les bêtes ressentent constamment. Donc ça engendre un stress qui engendre toutes sortes de maladies, autant sur le lait que sur le squelette, qui détruit l'animal. RTE aurait dû me dire, lorsque j'ai construit le prolongement, que dans le nouveau hangar, c'est que des sources. Et c'est les sources qui engendrent ça. Mais ils n'admettront jamais, parce que ça risque de faire jurisprudence, ça. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, parce qu'il faut le dire que l'usine de Lagues n'est pas mise en exploitation.
C'est-à-dire que dans quelques années, ils vont ouvrir une centrale nucléaire à La Hague, à quelques kilomètres d'ici.
Lorsqu'ils vont la mettre en exploitation, tout le courant va passer sur ma ferme et qui va doubler l'intensité du courant. J'ai peur. C'est le désastre. C'est le désastre. Tout ce que j'avais gagné pendant... Depuis 70 que je suis installé à mon compte, j'ai tout mangé. Il ne me reste plus rien. Le pire, c'est quand la famille est détruite. Parce que les enfants ont intervenu et sont repartis. Suite qu'il y avait trop de pertes, ça a tout ruiné, tout cassé. Aujourd'hui, j'attends toujours au moins qu'ils me remboursent ce que j'ai perdu, 500 000 euros. Ces entreprises-là préfèrent que les fermiers s'anéantissent financièrement, comme ça ils sont obligés de disparaître, comme beaucoup de voisins que je connais, que les fermes sont à l'abandon suite à ça. S'il n'y a pas d'accord avec RTE, je ferai ce que j'ai toujours dit, je mets l'antenne par terre et me suicide après. Vous faites un feu au pied et la ferrole... Comment ça fait? La ferrole se tortille et tout le monde tombe.
Vous le feriez vraiment?
Je le fais. Quand on a tout perdu, ça sert à quoi de vivre? Je suis né de la terre. On est comme ça, puis c'est tout. Hein. On est des agriculteurs.
C'était le jour où on a vendu nos vaches, un reportage d'Alice Milot réalisé par Anne Kobilac avec un coup de main d'Anne Depelchin, Thomas Jost et Emmanuel Geoffroy. Merci à Christophe et Ludivine, à Cyr Catherine, à Charlotte et à Stéphanie depuis la première diffusion de cette émission en mars 2017. Sachez que Christophe s'est reconverti comme salarié dans le BTP, Ludivine travaille toujours comme vendeuse dans la grande distribution et Sir Catherine, lui, est à la retraite. Il vit sur sa ferme qui est exploitée par deux jeunes, mais les vaches continuent à produire bien trop peu de lait et la RTE continue également à nier sa responsabilité. Merci à Sandrine Chaperon et à Jeanne Delecroix ainsi qu'à Zoé Marie Roulier.
Count me, call my name. Don't leave me out in shame. These crimson tears falling, and sure blood stain. 'Cause the devil's forever in my veins. The devil's forever in my veins. The devil's forever.